Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Bonjour à vous tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Et nous poursuivons, puisque nous sommes toujours dans ce mois de novembre, sur les fins dernières, puisque la grandeur de ce mois de novembre, eh bien, c'est justement de nous réorienter vers ces réalités futures. Alors, nous allons nous appuyer dans ces émissions sur un livre qui est sorti en 2016, « Les fins dernières » par un père dominicain, le père Philippe-Marie Margelidon, qui nous livre donc toute une réflexion à partir du magistère de l'Église, de la Sainte Écriture, sur ces fins dernières. Alors, pourquoi nous insistons sur ce thème? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette émission d'aujourd'hui. Parce que, c'est une partie, on peut dire, de notre foi ou de la théologie qui a besoin d'être affirmée aujourd'hui. Et beaucoup, la néglige ou même la nie, ces réalités donc futures. Le but de notre foi, de notre pèlerinage, on pourrait dire, sur la terre, c'est bien de pouvoir voir Dieu. Le ciel, c'est voir Dieu, pouvoir voir le mystère de Dieu face à face, comme nous le dit l'apôtre Saint Jean ou Saint Paul. Il nous parle donc de cette vision béatifique vers laquelle nous nous orientons. Et c'est le premier objet de la vertu théologale donc d'espérance. L'espérance, elle nous place vers ces réalités futures, comme le rappelle aussi la lettre aux Hébreux. L'espérance, c'est déjà l'acquisition des réalités futures, même si nous ne les possédons pas encore totalement, eh bien, nous savons qu'elles nous sont données en héritage déjà, et que nous nous orienterons sûrement vers cet objet qui est la vision de Dieu. Cependant, croire en la résurrection de la chair n'est pas une vérité annexe et secondaire à la foi chrétienne. Alors, quand on parle justement de la vision béatifique, c'est pas uniquement que pour notre âme. Notre âme, bien sûr, elle est faite pour voir Dieu, et c'est le principe de l'immortalité qui est en nous, c'est le principe spirituel. Mais notre âme, en tant que personne humaine, est liée à un corps, et ce corps est appelé à participer à la gloire de Dieu. Et cela est manifesté dans le corps glorieux du Christ, le corps ressuscité de notre Seigneur Jésus, avec lequel il entre dans sa gloire et avec lequel aussi il reviendra dans la gloire. Donc nous voyons que non seulement le salut concerne notre âme, mais aussi notre corps. Et nous proclamons, lorsque nous proclamons le credo, la foi, la foi de l'Église, rappelons-le, elle nous fait professer cette résurrection de la chair, qui est, on pourrait dire, au centre du kérigme évangélique. Aujourd'hui, nous voyons chez nos contemporains une certaine incrédulité qui rend quelquefois même la prédication de l'Église un peu malaisée. On a un peu du mal et on n'ose pas trop des fois même parler de cette réalité. Tout d'abord, le long processus aussi de déchristianisation qui prend la forme actuelle de la sécularisation aboutit à une indifférence ou à une marginalisation de la religion et de la foi chrétienne au profit des religiosités séculières qui font abstraction du mystère, qui le négligent ou voire même qui le nient. Depuis l'avènement de la modernité, puis de la postmodernité, nous sommes entrés donc dans ce processus, on pourrait dire, d'exculturation du catholicisme. Nous ne sommes plus en chrétienté et tout ce que la culture avait apporté lié à la foi est remis en question, voire même nié complètement. Ce processus donc de sécularité, accompagné aussi du matérialisme, aboutit à une réduction de la vision intégrale de l'homme. Le christianisme est résiduel et n'informe plus la culture et la société, si ce n'est de façon mémorielle, mais non vitale. On voit qu'on peut encore se souvenir de certaines traditions, d'une foi de tradition, mais non plus une foi vivante. La foi vivante, eh bien, elle a disparu de la culture de notre société. Et cela se manifeste aussi à travers particulièrement ces projets de loi bioéthique que l'on voit aussi aujourd'hui. Leurs discussions au Parlement et dans les débats publics témoignent d'un changement anthropologique qui constitue une rupture d'une radicalité sans précédent. Ce sécularisme influence la pensée et le comportement de bien des chrétiens face à la mort. On constate aujourd'hui une faiblesse de l'espérance aussi chez les chrétiens, même face à la mort. La foi eschatologique des chrétiens est largement remise en cause jusque dans ses fondements. La théologie dite des fins dernières en accuse aussi le contre-coup. On parle même d'une pénombre théologique, c'est-à-dire d'une réinterprétation des dogmes qui évacuent ou transforment les conceptions traditionnelles de la résurrection de l'âme, du jugement particulier et dernier, du ciel, du purgatoire et de l'enfer. Ces efforts de réinterprétation réducteurs influencent la catéchèse et la prédication. Certaines vérités sont même occultées quand elles ne sont pas plus encore complètement niées. La sécularisation de la mort et l'instrumentalisation du corps humain sont le fruit d'un long processus historique au terme duquel la distinction du corps et de l'âme est devenue inintelligible. Et c'est vrai que ce processus de sécularisation, nous le voyons, a commencé à travers l'élaboration des philosophies de la lumière et petit à petit aussi la distinction qu'on a voulu mettre en avant du corps et de l'âme, jusqu'à venir même à nier l'âme pour se concentrer uniquement sur le corps et donc tomber dans une vision aussi matérialiste de la personne humaine. Et petit à petit, l'âme a été réduite à un principe religieux, alors qu'au point de départ, c'était un principe philosophique, donc a été mis dans la sphère du religieux et donc écarté de la réflexion purement humaine, sur la personne humaine, comme un donné voilà, issu des traditions religieuses, alors qu'au fond, c'est un principe de vie qui est, voilà, qu'on peut aussi constater d'une manière philosophique. C'est une réalité philosophique avant tout. Nous sommes des êtres de chair, mais aussi qui ont cette caractéristique d'avoir une âme spirituelle, c'est-à-dire un principe de vie qui informe toute notre vie, qui n'est pas matériel, mais qui est spirituel. Et c'est ce qui le distingue des animaux. On voit donc que si on commence à nier ce qui fait notre différence avec les animaux, ben, on ne comprend plus rien. Et on met tout sur le même plan, j'allais dire, simplement de ce qui peut être tangible, de ce qui peut être mesurable, de ce qui est quantifiable, etc. Et petit à petit, bien, on arrive à une vision de l'homme complètement tronquée. Et c'est bien dans ce contexte que depuis le 19e siècle, 20e siècle et 21e siècle maintenant, nous sommes plongés. Alors il y a des tentatives de récupération de cette dimension spirituelle de l'homme, mais voilà, qui sont aussi un peu ésotériques, j'allais dire, et qui ne sont plus dans la lignée aussi, voilà, de ce patrimoine philosophique et théologique que l'on a connu aussi au long des siècles précédents, mais comme une redécouverte de la dimension spirituelle de l'homme, mais à travers les concepts qui viennent des religions orientales ou des philosophies orientales, etc. Mais voilà, en tout cas, la culture occidentale post-chrétienne tente aussi de se réenchanter par des spiritualités, des spéculations de substitution. La conception de l'homme et de son destin s'en trouve aussi radicalement modifiée. Même l'espérance chrétienne, culturellement appauvrie, se mélange et coexiste avec ces éléments. C'est pour ça qu'on voit malheureusement qu'il y a eu une publication aussi des chiffres, en France en tout cas, hein, où la majorité des chrétiens croient plus à la réincarnation qu'à la résurrection. Et c'était passé donc dans les médias, dans l'émission Enquête d'Esprit, par exemple, du 1er novembre. Eh bien, on publiait ces chiffres, hein, je crois 23% des chrétiens qui croient à la résurrection contre 32% qui croient à la réincarnation. Donc il y a vraiment aussi, voilà, redécouvrir, hein, ce patrimoine, hein, et cette réalité que nous professons dans notre credo, hein, qui fait partie de la foi chrétienne. Plus grave, la foi en la vie éternelle est souvent oblitérée chez les catholiques. Quand ce ne sont pas les pasteurs eux-mêmes qui n'osent plus aborder ce sujet, à l'annoncer. On voit même un certain prêtre qui nie l'existence aussi, bon, peut-être pas de la résurrection quand même, mais en tout cas, même par rapport aux fins dernières, hein, du purgatoire ou voire de l'enfer, hein, qui pense que tout ça c'était des restes de la théologie du Moyen-Âge. Pourtant, hein, ça fait partie des vérités à croire, hein. Voilà donc pourquoi il est important, hein, pour nous, bien voilà, de revenir sur cette réalité, hein, sur cette eschatologie et ses fins dernières, qui s'appuient encore une fois sur le mystère du Christ, évidemment. Le Christ ressuscité des morts, il est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Tel est, hein, vraiment le fondement de notre foi. Et la résurrection de Jésus a ouvert à ceux qui croient l'espérance de ressusciter avec lui lors de sa seconde venue. Mort avec le Christ, nous ressusciterons avec le Christ, dit saint Paul. Avec cette résurrection, les temps derniers sont arrivés et les croyants vivent tournés vers l'avenir dans l'attente d'une fin de ce monde pour entrer dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle. La seigneurie du Christ ressuscité, auquel le Père a soumis toutes choses, reste encore voilée, cachée à nos yeux. Mais c'est la manifestation glorieuse du Seigneur qui révélera sa royauté sur tous. Depuis l'avènement du Christ dans la chair, nous sommes entrés dans les derniers temps. La résurrection du Seigneur, c'est la fin advenue dans le temps. C'est de l'eschatologie réalisée. Le temps de l'Église est le déploiement de la délitation de la fin dans cet entre-deux qui va du premier avènement au second avènement du Seigneur dans sa gloire. Donc depuis l'avènement du Christ, le premier avènement, jusqu'à son deuxième avènement, son retour dans la gloire, eh bien c'est le temps de l'Église, le temps où voilà, nous cheminons avec le Christ déjà présent, mais nous cheminons dans la foi. Et nous cheminons aussi dans l'espérance, déjà pour nous aussi de le rejoindre dans la vie éternelle, dans la vision de Dieu, vision béatifique, mais aussi l'espérance que bien notre corps aussi participera à cette gloire lors de sa venue. Nous ressusciterons, comme le dit lui-même l'Écriture. La vie chrétienne est le commencement de la vie éternelle. Une vie eschatologique qui commence par la grâce de la vie baptismale pour aboutir à sa pleine et définitive réalisation dans la vision et de la gloire de Dieu. L'ultime étape de la vie éternelle après notre mort sera donc notre résurrection et la transformation du cosmos lors de la parousie du Christ. Le catéchisme de l'Église catholique parle aussi de cette réalité que même le cosmos aussi vivra une certaine transformation. Selon aussi la parole de Dieu dans la lettre de saint Paul, qui parle aussi de ces douleurs de l'enfantement dont vit la création tout entière. La création tout entière est encore dans les douleurs de l'enfantement, nous dit saint Paul. Donc il y aura aussi cette transformation du cosmos lors de la parousie du Christ, dont Bien sûr, nous ne savons pas exactement en quoi consiste cette transformation, mais c'est un donné de foi. Hein. Et donc que tout sera aussi véritablement transformé par la lumière de gloire qui nous permettra d'entrer dans ce que le livre de l'Apocalypse appelle les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Donc on peut dire l'avantage de cette réflexion, c'est de nous ramener aussi dans la réalité du temps. Le temps fait que bien, il y a un début et il y a une fin. Et Jésus lui-même, dans le livre de l'Apocalypse, nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Donc l'eschatologie nous renvoie à ce devenir aussi du salut, ce devenir du mystère du salut qui va de l'alpha jusqu'à l'oméga. Et donc nous avançons jour après jour, heure après heure, à travers ce temps qui rythme la réalité de notre vie, vers cette parousie, vers cette manifestation de la gloire de Dieu qui viendra et qui nous fera entrer dans une dimension nouvelle. Ce n'est pas tout à fait une vie nouvelle, puisque la vie éternelle est déjà commencée, mais c'est plutôt une dimension nouvelle de notre vie, c'est-à-dire que cette vie que l'on vit aujourd'hui dans la foi, l'espérance et la charité, eh bien, sera complètement transformée. La foi sera remplacée par la vision. L'espérance sera acquise, puisque nous pourrons entrer dans cette béatitude qui nous comblera tout entière. Nous n'aurons plus rien d'autre à désirer, puisque nous serons devant celui qui nous comble pour l'éternité. Et puis la charité, par contre, comme le dit saint Paul, elle demeure parce que la charité, c'est cet amour de Dieu, cet amour qui nous fait aimer Dieu, par lequel Dieu nous aime, et par lequel aussi nous nous aimons les uns les autres. Donc évidemment que cette vertu de charité demeurera dans l'état glorieux, elle sera même transformée, surélevée aussi. Le Christ Seigneur, depuis le jour de sa résurrection d'entre les morts, il est Seigneur, Roi et Juge de toute chair. Mais cette Seigneurie du Christ trouvera son expression ultime à la fin du monde, lors du jugement dernier, contemporain de sa parousie. Cette venue dans la gloire du Seigneur pour juger les vivants et les morts sera contemporaine à la résurrection de toute chair. Cette résurrection en sera l'effet. Ceux qui auront fait le bien sortiront pour la résurrection qui mène à la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. Évangile de Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. On retrouve aussi un parallèle dans l'évangile de Matthieu, le fameux chapitre 25 de Matthieu, 31-46, sur le jugement dernier. La résurrection sera à la fois la pleine participation des sauvés, c'est-à-dire des justes, en leur âme et en leur corps, à la gloire corporelle du Seigneur, et aussi la confusion maximale des damnés, des réprouvés. Donc tous ressusciteront. La résurrection ne concerne pas uniquement ceux qui sont appelés à la résurrection des justes, mais aussi même les damnés, selon, encore une fois, cette parole du Seigneur lui-même qui nous dit tous ressusciteront. Ceux qui ont fait le bien, comme ceux qui auront fait le mal, devront aussi vivre ce deuxième jugement, on pourrait dire. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier ou le jugement universel. La résurrection des morts est le caractère distinctif de la foi chrétienne. Nous proclamons dans notre credo « Je crois en la résurrection de la chair », c'est-à-dire de l'homme tout entier. Il faut ajouter de tout le cosmos ultimement et définitivement transformé, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Cependant, le Nouveau Testament parle aussi de la destinée de l'homme immédiatement après sa mort. Donc, lorsque nous mourrons, lorsque notre âme sera séparée de notre corps par la mort, eh bien, notre âme comparaîtra aussi devant le Seigneur pour ce qu'on appelle le jugement particulier. Le Seigneur sur la croix promet au bon larron repenti qu'aujourd'hui il sera avec lui dans le paradis. Et Paul pense que la mort est un gain. Pour lui, être délié du corps et être avec le Christ est ce qu'il y a de mieux qui puisse lui arriver. Même si pour le bien des chrétiens de Philippe, il y désire vivre pour continuer à les aider. La destinée de chacun après la mort est déjà un objet de préoccupation pour les auteurs du Nouveau Testament. La manifestation du Seigneur et le sort de l'humanité d'une part, le destin personnel de chacun au moment de la mort d'autre part, ont été les deux pôles autour duquel a tourné toute la réflexion de l'eschatologie chrétienne. Selon les époques, on donne la priorité à un aspect ou à un autre, mais les deux ont été réellement présents dans la réflexion de l'Église. Dans ce livre, donc, je rappelle l'auteur, le père Philippe-Marie Margel-Lidon, donc père dominicain, eh bien, il nous propose cette réflexion sur ces réalités dernières. Dans cette perspective, il convient de s'interroger sur les liens entre l'histoire du salut, dont le Christ ressuscité est le centre, et ce qu'on appelle la fin de l'histoire, ou la fin des temps. En effet, avant de parler aussi des réalités ultimes qui sont au-delà de l'histoire, il convient de comprendre la signification de l'histoire humaine à laquelle le Christ, en son ultime avènement, mettra fin. En effet, le Christ Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, est présenté dans les évangiles, surtout dans les évangiles synoptiques, comme le prophète eschatologique du royaume. Il l'annonce et le proclame à travers les nombreuses images qu'il emploiera, des paraboles, il le proclame comme une réalité imminente. Son avènement est proche. Il commence en lui et par lui. Le royaume des cieux est là au milieu de vous, dira aussi Jésus. Il est déjà là, il le constitue autour de lui. Ses disciples, plus précisément ses apôtres qu'il a choisis avec Pierre, Jacques et Jean, ses témoins privilégiés. Pierre, le premier, à qui il remet les clés du royaume, qu'il institue comme pasteur pour paître les brebis de son troupeau, l'Église. Ce royaume, dans sa substance, a commencé dans le Christ et dans l'Église. Mais il aura sa forme parfaite et définitive dans cet au-delà de la mort. Si notre vie chrétienne, dans son actuelle condition charnelle et terrestre, est une réalisation imparfaite et commençante de la vie éternelle du royaume de Dieu, elle trouvera sa perfection par l'ultime avènement du Christ lors de sa parousie. Le mystère du salut, fondé sur l'événement de Jésus mort et ressuscité, est tout entier orienté vers l'avenir. L'eschaton vers l'ultime. La fin a été anticipée par la résurrection du Christ d'entre les morts. En effet, si Jésus est ressuscité, c'est déjà quelque part aussi que les derniers temps sont accomplis. Il est prémisse de ceux qui se sont endormis aussi, nous dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. En lui et par lui, la fin des temps est déjà tout proche. Dire que la fin de l'histoire est anticipée dans la résurrection de Jésus, c'est dire que le monde et son histoire n'iront pas à la catastrophe universelle ou à la perdition générale, mais plutôt à la glorification. Alors ça, c'est un point très important pour nous aujourd'hui. Dans le contexte surtout dans lequel nous sommes, nous pouvons voir l'avenir du monde, ou même la fin du monde, comme une fin tragique, catastrophe universelle. Alors, peut-être que Jésus le dit aussi, quand il parle de sa venue, qu'il y aura aussi des signes cosmiques. Hein, et il y aura cette réalité des douleurs de l'enfantement, elle est bien là pour montrer que ben, il y a quand même une mutation. Hein, et donc peut-être une certaine forme de destruction. Oui, certaines choses voilà, s'écrouleront, mais tout ne sera pas, vous allez dire, entraîné dans le néant. Mais bien au contraire, tout sera transformé et glorifié. Voilà l'espérance chrétienne. Nous savons déjà que eh bien, cette fin des temps, elle nous conduit à une régénération complète à la fois de l'homme et de l'univers. Encore une fois, on se renvoie aussi au livre de l'Apocalypse, qui bien sûr est le grand livre de l'espérance, parce qu'elle nous montre justement la victoire acquise à l'agneau et voilà ce triomphe aussi sur les puissances du mal, hein, où le démon sera enchaîné dans les temps de feu avec le faux prophète et ceux qui l'auront suivi, et aussi où les justes régneront, entreront dans la Jérusalem céleste, hein, où Dieu sera tout en tous cette fois. Hein, Dieu sera leur Dieu, et de pleurs il n'en aura plus, de cris il n'y en aura plus, de morts il n'y en aura plus, comme nous dit le livre de l'Apocalypse. Donc, voilà, comme chrétiens, ben, nous ne pouvons pas désespérer de ce monde, parce que ce monde est dans les mains de Dieu. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui le gouverne, et c'est lui qui l'amènera à sa plénitude. Alors, bien sûr, cohabite le mystère du mal. Hein, c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi une certaine forme de destruction, d'horreur aussi, hein, malheureusement, parce que la réalité du mal est là. Et c'est le mal qui est vaincu, mais le bien triomphe. Pierre, dans les Actes des Apôtres, en appelle au fait que le Christ n'a pas été abandonné au séjour des morts. Sa chair n'a pas connu la décomposition. Le tombeau vide est le signe annonciateur du retournement eschatologique du monde. Il nous dit que la figure actuelle de ce monde n'est pas sa réalité définitive. La loi de la corruption n'a pas le dernier mot de la condition humaine, car la résurrection de Jésus est en quelque sorte le signe, la parabole en acte de ce que doit être notre résurrection. Il est ressuscité, et tel il est ressuscité, tel nous ressusciterons. La résurrection de Jésus préfigure l'état définitif de l'humanité rachetée par lui et l'état définitif du cosmos à la fin des temps. Voilà, nous terminons ainsi notre émission pour cette semaine. Nous retrouverons donc la semaine prochaine pour continuer aussi à entrer dans cette réalité des fins dernières, la réalité de la résurrection, avec aussi les parties qui la composent, à travers déjà la mort, le salut, le jugement, etc. Donc, bonne semaine à vous tous. Prions les uns pour les autres et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.